c'est l'heure des enjeux internationaux. En Iran, hier, de nouvelles manifestations de colère ont eu lieu à travers le pays, notamment à Téhéran, la capitale, à Ispahan, plus au sud, à Machad, à l'est, la deuxième ville du pays, et dans le Kurdistan iranien, cette fois à l'ouest du pays. Selon plusieurs groupes de défense des droits de l'homme, depuis le début de l'immense contestation après la mort de la jeune Mahsa Amini le 16 septembre dernier, tuée sous les coups de la police des mœurs de Téhéran, qui lui reprochait sa tenue vestimentaire, 200 personnes, dont 28 enfants, ont été tués par la répression et les balles réelles du régime. Des milliers d'autres ont été blessés ou arrêtés. Alors, selon plusieurs rapports, les Pasdaran, les gardiens de la révolution iranienne, la puissante milice d'État fondée après la révolution islamique de 1979 et dont l'emprise est forte sur le pouvoir iranien, les Pasdaran recensent eux aussi une vingtaine de victimes. Alors, si les intérêts économiques, politiques de ces gardiens de la révolution en arrivaient à être menacés, peut-on imaginer qu'ils se retournent contre le pouvoir dont ils sont censés pourtant assurer la pérennité? Pour répondre à cette question et comprendre la dynamique des gardiens de la révolution iranienne, nous accueillons ce matin Stéphane Dudoignon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et directeur de recherche au CNRS, au groupe Société, Religion, Laïcité et au Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques. Stéphane Dudoignon, les images de violence dans les universités, notamment à l'université Sharif à Téhéran, ont fait le tour du monde malgré les blocages d'Internet. Comment le régime organise la répression des manifestations et qui sont les Basidji, cette unité des gardiens de la révolution à l'avant-poste de la coercition selon les informations qui circulent?
Les Basidji sont un corps, l'un des 5 corps en fait des gardiens de la révolution qui sont issus historiquement de milices locales et régionales créées pendant en fait l'hiver 78-79, donc au moment de la révolution, et réunifiées au printemps 79, donc sous la houlette de l'ayatollah Khomeini, qui est alors le guide de la révolution, le premier guide de la révolution dite islamique. Ces Basidji jouent depuis la fin de la guerre Iran-Irak en 1988-89 un rôle extrêmement important dans la surveillance locale et l'encadrement local des populations. On a des unités Basidji qui sont absolument disposées dans tous les quartiers. On a un encadrement donc extrêmement fort et un maillage extrêmement serré du territoire par ces unités locales, souvent issues d'ailleurs des populations du CRU, sauf dans les régions périphériques du pays où ils sont envoyés depuis des régions beaucoup plus éloignées. Le mouvement étudiant a embrasé un nombre extrêmement important de campus sur la presque totalité du territoire iranien jusqu'à Bandar Abbas et rappelle beaucoup ce qui s'est passé déjà en 1999 où on avait eu une révolte étudiante extrêmement importante en Iran. Depuis la fin du XXe siècle, la jeunesse, on l'a peut-être un tout petit peu oublié, est aux avant-postes de la contestation du pouvoir et on en est déjà à plusieurs générations avec la révolte de 1999, le mouvement vert en 2009 où la jeunesse avait été extrêmement présente dans les manifestations et les mouvements sociaux qui se succèdent de manière, on va dire, pratiquement ininterrompue depuis l'hiver 2017-2018. À l'époque, ça avait été des protestations contre le renchérissement brutal du prix de l'essence à la pompe. Ce qui est intéressant de suggérer, c'est que les événements et la mort en particulier de Mahsa Amini au moment de son arrestation le 16 septembre a joué un rôle ici de révélateur en fait de mécontentement extrêmement d'un spectre extrêmement large de mécontentement, d'où l'embrasement extrêmement rapide de la société iranienne dans son ensemble.
Au passage d'ailleurs, c'était grâce à un journaliste iranien hein, parce qu'au départ la mort de Mahsa Amini avait été camouflée. On avait dit qu'elle avait une maladie du cerveau. D'un point de vue géographique, la répression des Basidji, Stéphane Dudoignon, elle n'est pas aussi violente partout. Alors si le Kurdistan iranien semble faire les frais d'un niveau de violence sans précédent, à Téhéran aussi, les miliciens s'illustrent par des méthodes particulièrement brutales. Comment expliquer ces écarts de traitement? Est-ce que ça raconte le maillage territorial des gardiens de la révolution? Est-ce qu'il y a par exemple des régions où ces gardiens de la révolution sont moins enclins à faire respecter les ordres?
Je pense que ça s'explique à la fois par un certain nombre d'héritages impériaux de la République islamique, les anciennes marches impériales de l'Iran, je pense au Kurdistan, je pense aussi au Baloutchistan, dans l'extrême sud-est du pays, sont en général encadrés par des garnisons qui sont venues d'autres régions de l'Iran. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une région centrale, par exemple, sur le plateau iranien, vous allez avoir des cantonnements Pasdar, donc gardiens de la révolution, et Basidji, qui vont être issus du lieu. Quand vous entrez dans le Basidj, et puis que vous faites votre carrière au sein des gardiens de la révolution, vous vous retrouvez dans un casernement, une garnison qui est celle de votre ville d'origine. Et donc les gens que vous allez avoir en face de vous dans les manifestations sont les gens, sont vos cousins, sont vos voisins. Et donc il est tout à fait évident que la relation que vous allez avoir avec eux ne va pas être la même que lorsque vous vous trouvez transplanté dans une région périphérique, au Kurdistan, au Baloutchistan, où les garnisons vont avoir tendance à considérer les populations locales un peu comme des citoyens de seconde zone, finalement, vis-à-vis desquels une très grande brutalité est possible. Ce qui est extrêmement important et très particulier, par contre, à la République islamique, c'est que Téhéran va aussi être considéré comme une zone un peu pas fiable politiquement, et où on va envoyer de manière systématique en garnison des gardiens de la révolution, des Basijis qui vont venir d'ailleurs. L'ossature de la garnison des gardiens de la révolution à Téhéran est constituée par un régiment, puis division, qui s'appelle Sarollah, Vengeance Divine. C'est l'unité militaire qui a été créée par le feu Qassem Soleimani, très célèbre général des gardiens de la révolution tué à Bagdad en janvier 2020, qui a créé ce régiment à l'origine, cette milice à Kerman, donc à l'extrême sud-est de l'Iran. Et c'est tout à fait représentatif, en fait, que la République islamique traite un petit peu Téhéran comme elle traite un petit peu le Kurdistan et le Baloutchistan, comme une zone un peu pas très très fiable où on envoie des garnisons venues d'ailleurs. Une autre raison, je pense, pour la répression particulièrement brutale dont ont été victimes le Baloutchistan à l'est et le Kurdistan plus récemment à l'ouest, c'est que la République islamique tente à faire accréditer aujourd'hui dans son discours officiel l'idée d'un complot et notamment du rôle de milices ou de guérillas transfrontalières, kurdes ou balouches. Et c'est une des raisons pour lesquelles le nombre de morts est particulièrement important. On cherche à accréditer à Téhéran l'idée que ces régions seraient en fait dans une période d'insurrection et de soulèvement aidée par l'étranger.
Un mot quand même sur le Kurdistan à l'ouest, c'est la région d'origine de Mahsa Amini.
Tout à fait.
Oui. Et un mot aussi sur le Baloutchistan, puisqu'il y a eu quand même le 30 septembre dernier une répression sanglante contre la population locale. On compte, les ONG comptent environ 60 personnes qui ont été tuées, et cette fois-ci dans des mouvements de contestation qui ne concernaient pas la mort de Mahsa Amini, mais une affaire locale où un chef de la police locale aurait été impliqué dans le viol d'une jeune femme.
Dans le viol et le meurtre d'une jeune femme à Chabahar, donc qui est le grand port de la région du Sistan, Baloutchistan, sur l'océan Indien. Et c'est le chef de la garnison locale, un colonel qui s'appelle Kouchek Zahi, qui est aujourd'hui accusé d'avoir été à l'origine de ce viol et de ce meurtre qui a évidemment incendié la région. Ce qui est extrêmement important, c'est bien d'insister sur le fait que les événements que l'on observe aujourd'hui, on insiste beaucoup et à raison sur, et le président Macron l'a fait hier dans son intervention, sur le rôle des manifestantes et de la question féminine le mouvement de protestation actuel. En même temps, une chose sur laquelle, et ça c'est quelque chose d'assez neuf, sur laquelle insistent de manière systématique les mouvements sociaux en Iran aujourd'hui, c'est l'unité des luttes. Il y a un slogan en particulier, qui, si je le traduis en français, va donner de Kermanshah à Zahedan et du Gilan à Bandar Abbas, c'est l'unité. C'est-à-dire répondre à la suggestion des autorités, qui consiste à dire c'est d'abord un mouvement féministe guidé par l'Occident et des mouvements nationalistes kurdes et baloutches téléguidés par Riyad, par le Pakistan, etc. La réponse des manifestants aujourd'hui, c'est de dire nous avons une unité des luttes. Un symbole de cette diversité des revendications, c'est l'entrée tout simplement du mouvement ouvrier dans les manifestations, puisque depuis deux jours, la pétrochimie du Sud a rejoint le mouvement de protestation.
Alors justement, si on se place du côté des Basijis, donc de cette partie des gardiens de la révolution iranienne, est-ce qu'on peut imaginer par exemple que certains membres puissent décider de refuser d'appliquer la politique ultra-répressive à la lumière de ce qu'on évoquait tout à l'heure, sachant qu'une vingtaine d'entre eux sont déjà morts dans les affrontements avec les manifestants?
Alors je pense qu'il y a une chose qu'on observe et qui est la vraie nouveauté des mouvements sociaux de cette année, qui est une certaine division qui commence à se faire jour dans les forces de l'ordre et les forces armées de la République islamique. On voit en particulier des officiers intermédiaires de l'armée conventionnelle, Artesh en persan, qui commencent à en fait s'exprimer sur les réseaux sociaux et à prévenir qu'ils ne toléreront pas les massacres de populations civiles continuent à l'échelle de l'Iran. Ça, c'est quelque chose de radicalement neuf. On a donc sous réserve de confirmation, un début de contestation à l'intérieur des forces armées de la politique du tout répressif qui a été adoptée par l'administration du président Raïssi et le guide Khamenei sur fond de dénonciation d'un complot international. Comme je vous le suggérais tout à l'heure, dans la mesure où une grande majorité de garnisons des Basiji et des gardiens de la Révolution sont des garnisons locales constituées de soldats qui sont issus de la population face à laquelle ils servent. Je pense que dans les jours, les semaines qui viennent, et c'est quelque chose que l'on observe déjà d'une ville à l'autre en Iran, on va avoir une réticence probablement croissante de certaines forces de l'ordre. On a aussi assisté, je pense au Kurdistan en particulier, à des reculs des forces de l'ordre face aux manifestants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait nouveau.
Est-ce qu'on assiste d'une certaine manière à une fracture générationnelle, sachant que parmi donc les gardiens de la Révolution, il y a aussi ceux qui ont participé à la Révolution de 1979 et qui ont subi d'ailleurs les violences de la police du Shah, la très redoutée Savak. Qu'est-ce qu'ils ont comme regard sur la répression d'aujourd'hui ?
Alors, et vous avez tout à fait raison d'insister sur cet aspect des choses, dans la mesure où les protestations provenant de membres des forces de l'ordre ou des forces armées telles qu'elles s'expriment aujourd'hui sur les réseaux sociaux viennent beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire des soldats du rang ou d'officiers de rang intermédiaire. Donc le clivage générationnel à l'intérieur des forces de l'ordre et des forces armées est tout à fait avéré. Cela étant, on observe depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis le mouvement vert de 2009, une protestation croissante, vous les évoqués, de la part des grands vétérans de la Révolution, c'est-à-dire des fondateurs, des gardiens de la Révolution, en retraite pour un certain nombre d'entre eux depuis maintenant plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'années, mais qui aujourd'hui écrivent des mémoires, créent des blogs dans lesquels ils dénoncent la dérive affairiste, la corruption des milieux dirigeants d'Iran. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que au sein même des gardiens de la Révolution, on va avoir une sorte de convergence entre les grands anciens, en quelque sorte, de la Révolution, qui vont avoir tendance à prendre leur distance vis-à-vis du régime, et en particulier de l'administration Raïssi, et les plus jeunes, la base, en quelque sorte, la troupe, qui, on le voit aujourd'hui sur des images en nombre croissant sur les réseaux sociaux, ont tendance soit à ne pas tirer, soit à se reculer, plus ou moins en désordre, face à des manifestants désarmés.
Est-ce qu'ils sont rejoints aussi par certains politiques iraniens, des gradés de l'armée qui auraient exprimé leurs réserves sur le niveau de la répression et face à la nécessité d'écouter la jeunesse iranienne ? Est-ce qu'il y a un basculement qui est du corps des gardiens serait envisageable ? Sachant d'ailleurs qu'il y a un des membres du puissant conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime iranien qui a dit qu'on ne pouvait pas gouverner par la force.
C'est un discours que l'on commence à entendre de la part de responsables et surtout de conseillers en sécurité de l'ayatollah Khamenei, guide de la Révolution. Donc on commence à avoir à l'intérieur, y compris dans les cercles très rapprochés du pouvoir, un discours qui consiste à déplorer le tout sécuritaire, le tout répressif qui a été adopté par le gouvernement aujourd'hui.
Alors il y a un aspect, Stéphane Dudagnon, qui ne faut pas écarter, c'est que la mainmise des gardiens de la Révolution sur l'économie iranienne, notamment dans les secteurs pétroliers, industriels, du BTP, des télécoms aussi, est importante. Est-ce que si leurs intérêts économiques et plus qu'idéologiques se retrouvent menacés, est-ce que cet état dans l'état que sont les gardiens de la Révolution iranienne pourrait-il rebattre les cartes ?
C'est probablement ce qui va jouer le plus fortement en faveur d'un conservatisme. En même temps, ce que l'on observe depuis maintenant un certain nombre de décennies, depuis en particulier le tournant du 21e siècle, c'est que l'implication des gardiens de la Révolution dans l'économie a été aussi à l'origine de la création de lobbies concurrents, notamment dans le secteur militaro-industriel où des intérêts régionaux s'affrontent parfois pour la localisation de tel ou tel type d'industrie, de fabrication d'armement, de fabrication de munitions, etc. Et on a assisté, en particulier dans les commissions ministérielles et du ministère de la Défense, extrêmement puissantes en termes d'organisation du marché de l'armement en Iran, à l'expression de plus en plus patente de lobbies contradictoires. Et on pourrait avoir là peut-être un début de facteur de division interne du corps des gardiens de la Révolution face aux événements actuels.
Les gardiens de la révolution qui, dit-on, ont longtemps échappé à l'impôt à travers les sociétés qu'ils avaient créées après la guerre entre l'Iran et l'Irak. C'était en 1988. Il faut néanmoins noter que, eh bien, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a réaffirmé hier que des ennemis étaient impliqués dans les émeutes. Vous aviez fait référence, Stéphane Dudoignon. Il évoquait, lui, que les ennemis sont les États-Unis et Israël, les agents accusés d'avoir fomenté le mouvement de contestation. Voilà, c'est merci beaucoup Stéphane Dudoignon d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de ces gardiens de la révolution si puissants en Iran. Je rappelle que vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, au groupe Société, Religion, Laïcité et au Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques. Merci beaucoup. Les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui.
France Culture. L'esprit d'ouverture.